Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Et oui, le Covid revient. Et donc Gilles Pialou aussi. Bonjour Gilles Pialou. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Thonon. On va aussi parler de la situation de l'hôpital parce que vous faites partie de ceux qui alertaient. Mais justement, c'est particulièrement préoccupant que dans cette situation où l'hôpital est à bout, eh bien, le Covid revient. 80 000 cas de Covid en 24 heures. De nouveaux cas, de nouveaux variants. Un retour du masque. Je précise d'ailleurs que vous avez remis le masque ce matin. Gilles Pialou, il faut donc s'inquiéter.
Vous avez remis la table courte.
Oui,
vous avez
j'avoue.
Une table plus longue pendant le Covid.
Exactement, vous avez raison de le dire. Ici, dans ce studio, nous avions élargi la table au moment où on était dans les contraintes du Covid. Nous l'avons remise telle qu'elle était avant. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je remette la rallonge ?
Non, disons qu'on est dans une situation qui est complexe, mais avec des armes qui sont différentes d'avant. Donc, on est avec des variants... on va en parler tout à l'heure de BA5, etc., qui sont hautement contagieux, qui sont un peu des avions furtifs, c'est-à-dire qui passent en dessous des défenses immunitaires. Ça, c'est une vraie complexité de la bande d'Omicron qui a commencé avec BA1, BA2, etc. Et puis, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est à distance de, pour beaucoup de gens, on est à distance de la troisième dose. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ça augmente. On est à distance aussi avec maintenant une période très longue, très festive, faite de la musique, etc., avec des mesures barrières qui ont été proches de zéro, il faut le dire. Hein. Moi, c'est un peu symbolique, le masque, c'est pas la situation. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont devoir remettre le masque parce que la contrainte ne viendra pas. On est dans une situation politique, je ne sais pas si on va en parler, où les prises de décision vont être encore plus complexes dans le chaos qu'on nous a annoncé. Et donc les décisions qui vont aller dans le sens de la contrainte vont être très compliquées, il va falloir un consensus. Donc je pense qu'il y a une responsabilité individuelle, c'est pour ça que j'avais dit à un moment, j'avais reçu bien des insultes, j'avais dit on aura des vagues qu'on mérite, mais parce que il y a un appel à la responsabilité individuelle sur le port du masque dans les transports en commun. C'est pas parce qu'il est pas obligatoire qu'il est pas conseillé, franchement, et surtout avec ces variants hautement contagieux.
On va rentrer justement dans le détail de ces variants, mais vous l'évoquez de vous-même, il y avait eu cette phrase un peu culpabilisatrice que vous aviez lancée en disant les Français auront les vagues qu'ils méritent, et au fond quand vous dites que il y aura pas de contraintes politiques, c'est la même chose pour les politiques, on a les politiques qu'on mérite, on a la situation qu'on mérite, et la conclusion que vous en tirez, c'est à chacun de faire en sorte de se protéger, à chacun d'être responsable.
Oui, parce qu'on a une septième vague avec un variant ultra transmissible, encore plus transmissible que les premiers Omicron, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, même si effectivement pour l'instant on ne voit pas d'impact important sur l'hospitalisation et sur la réanimation, et ça c'est très important, mais il faut attendre aussi que cette augmentation, puisque ça a triplé, vous l'aviez dit dans les sujets précédents, ça a triplé en 3 semaines le nombre de cas, de voir l'impact que ce triplement a sur l'hospitalisation. Mais c'est vrai que pour l'instant Omicron n'a pas rempli les hôpitaux, mais il faut rappeler aussi qu'on n'a jamais été à zéro. On a toujours eu des malades. Moi, j'ai toujours eu des malades et
Eu des malades et toujours des morts. Il y a 50 morts par jour encore en France
du
Covid.
C'est pour ceux qui nous expliquent que c'est un rhume. C'est pas tout à fait un rhume d'abord. Et puis, il y a cet angle mort qui continue. C'est 8 millions de personnes qui sont accessibles au deuxième rappel. Vous savez ce qu'on appelle le deuxième rappel, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que cinquième dose, c'est compliqué. Le deuxième rappel, il y a encore 8 millions de gens à récupérer. Donc, il y a encore du monde à convaincre, à la fois de se protéger, de protéger ceux qui sont le plus à risque, je pense aux immunodéprimés, aux personnes âgées, à ceux qui sont très à distance du dernier vaccin.
Vous avez parlé de ces variants très contagieux. Ils s'appellent BA5 et BA4. C'est eux qui se propagent en ce moment même en Europe.
Alors c'est BA5 parce qu'on l'a déjà vu en Afrique du Sud, puis on l'a déjà vu au Portugal. Alors tout le monde dit, ah ben oui, mais au Portugal, c'est déjà en train de redescendre. Oui, mais les Portugais ont une situation particulière, ils n'ont pas connu une vague BA1 comme nous. On a eu, peut-être BA1, c'était à partir de novembre, rappelez, c'est le premier Omicron, novembre en Afrique du Sud, décembre chez nous, et puis après le BA5 est effectivement actuellement majoritaire, puisque c'est à peu près 65% des nouvelles contaminations.
Ce BA5, il se manifeste comment ? Quelle est sa spécificité d'abord sur les symptômes ? Est-ce que c'est une forme ? Est-ce que ça entraîne des formes graves du Covid ?
Alors, il y a des formes graves de tous les Covid. Il faut être clair quand essentiellement vous avez à la fois pas de vaccination ou une vaccination incomplète, c'est un premier facteur de gravité. Le deuxième, c'est d'avoir des comorbidités. On voit beaucoup de gens, par exemple, qui décompensent des insuffisances respiratoires à cause d'Omicron. Donc, c'est pas directement Omicron qui les met en réanimation, mais c'est leur état de base qui est déséquilibré par Omicron.
Et troisièmement, c'est l'étincelle, quoi.
C'est l'étincelle, exactement. C'est ça qu'on voit le plus. Alors, à un moment aussi, les gens disent, ah oui, mais c'est des Covid accessoires. En gros, ils viennent pour une jambe cassée, ils ont le Covid. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont des maladies de base qui décompensent à cause de Omicron. Donc, avec un mélange des deux. Et puis, le dernier élément aussi, il faut le dire, c'est que c'est un aimant positif. On a accès à un traitement qui est sous-prescrit en France. Ça s'appelle le Paxlovid. J'ai absolument aucun lien d'intérêt avec la firme. Le Paxlovid, j'en ai pris moi-même quand j'ai eu parce que j'ai des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça diminue de 85% le passage à des formes graves et à la mentalité.
Il faut le prendre quand?
Ah, il faut le prendre dans les 5 jours. Alors, c'est donc quelque chose
qu'on suive le fil. Vous avez des,
on a des armes.
Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont des symptômes. Les symptômes, c'est les mêmes que le Covid classique.
Il faut continuer à se dépister.
Donc, on a un symptôme. On a, j'imagine qu'on va se dépister que quand on a un symptôme là aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc on a un symptôme, si on a de la toux, on a de la fièvre, on a mal à la gorge, on a quoi? C'est ça à peu près.
Alors les formes. Alors votre question c'est de savoir est-ce que BA5 est plus grave que les autres. Pour l'instant on n'a pas ces données là et on n'a pas de signaux qui montreraient que ça soit plus grave. C'est très important. On l'avait montré avec Delta, on l'a montré avec Alpha, etc. Vous savez les variants sud-africains et anglais. On l'a pas encore montré avec Omicron qu'il y avait plus de gravité.
Donc on a des symptômes. En tout cas,
on a des symptômes. Alors les symptômes sont un peu différents. Il y a moins de signes respiratoires. Il y a moins d'atteintes respiratoires classiques. Vous savez, on a commencé cette maladie en disant que c'était une maladie respiratoire. Il y a moins de signes respiratoires. Il y a plus de signes à type de syndrome grippal, c'est-à-dire avec des fièvres très importantes. Moi, j'avais l'impression d'avoir la dingue. Hein, j'avais 40, des frissons, etc. Donc, je suis pas le seul. Et puis, effectivement, des signes ORL et des mal à tête très importantes.
Un mal de tête.
Mais ça peut ressembler à autre chose aussi. Hein, c'est pour ça qu'il faut dépister.
On se fait tester. Donc, on a ces symptômes, on se fait tester.
On s'isole.
Si on est positif d'avoir, on s'isole, on continue à s'isoler comme avant.
Mais oui, c'est ça, vous faites. Je suis désolé, mais d'être chaque fois l'oiseau de mauvaise augure, mais on a enlevé les obligations et tout d'un coup, les gens ont oublié qu'il y avait quand même une logique individuelle et collective à se tester. Parce que quand on se teste et qu'on sait qu'on est positif, et vous le savez, la nature humaine est comme ça, on n'a pas le même comportement de prévention. On fait plus attention, on met un masque FFP2 pour pas contaminer ses proches, surtout ceux qui sont fragiles ou pas suffisamment vaccinés. Donc il faut se dépister. En plus, ça permet de suivre quel virus on a.
Donc se dépister, aller chez le docteur et prendre donc ce médicament.
Alors ça, il y a des indications, il y a des critères. C'est pas tout le monde qui prend ce médicament. C'est pas le médicament contre la grippe qu'on prescrit. Il faut avoir des critères de gravité. C'est à voir avec son toubib en fonction des différents symptômes et des différentes comorbidités, comme on dit, que vous avez.
On s'isole combien de temps? Pareil qu'avant, 7 jours?
Bah ça, on n'a pas bougé, oui. On n'a pas bougé cet élément-là.
Quand on est vacciné, on s'isole moins longtemps, on se reteste pour vérifier qu'on est plus positif?
Alors, il n'est pas conseillé par les autorités de santé de se retester parce que les gens sont très souvent positifs assez longtemps. Et c'est très difficile d'avoir cette information-là. Mais bon, dans le marché du travail, on le voit actuellement, et ça pèse sur l'hôpital, par exemple. On va en parler tout à l'heure.
Vous avez beaucoup d'absents?
Ah bah oui, l'absentéisme, c'est un très bon marqueur d'ailleurs, l'absentéisme dans les entreprises, l'absentéisme dans les écoles, voilà. J'ai tout là, j'ai absentéisme à l'école, absentéisme à l'université et absentéisme dans le service.
Et ça, c'est le constat que l'épidémie repart.
Oui, on en est à 85 000 à peu près. Bon, c'est évidemment, alors on dit, ah oui, on est monté à 350 000, mais on est prudent et franchement, on a un peu d'humilité parce qu'on n'a pas tout compris de ces virus.
Gilles Pialoux, est-ce que ce fameux BA5 résiste au vaccin, ou est-ce que si on est vacciné classiquement, si on a fait ces deux doses ou ces trois doses, c'est bon?
Disons que les gens qui ont pas de maladie associée, de comorbidité, qui ont eu les trois doses, vont échapper globalement aux formes sévères, à l'hospitalisation. Ça, c'est très important. Évidemment, ces variants très contagieux augmentent le niveau d'immunité. C'est une mauvaise nouvelle pour l'immunité collective, ces variants, justement, parce que ils nécessitent qu'on hausse le niveau de protection des plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur les 8 millions de plus de 60 ans qui sont pas vaccinés.
J'ai du mal à suivre là-dessus, Gilles Pialoux, parce qu'on avait le sentiment au contraire que plus le virus circulait, surtout s'il circulait à bas bruit, alors ça créait une immunité collective qui, à terme, était forcément positive pour tout le monde. Et là, vous nous dites, c'est une mauvaise nouvelle,
oui.
Je comprends pas.
Ben, c'est une mauvaise nouvelle parce que, par exemple, c'est un peu technique, mais si vous avez, ça aussi, il faut dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais moi, en 2020, j'ai eu le Covid.
Ouais.
Donc finalement,
donc, tranquille.
Après, mais non, on n'est pas tranquille parce qu'on sait maintenant que très bien, il y a plein de papiers qui viennent de sortir, que l'immunité qui a été induite par la souche initiale, la souche Wuhan, ne sert quasiment à rien pour Omicron, en gros, pour faire clair. On sait aussi que...
C'est comme des maladies différentes.
C'est une maladie différente, puis ce virus, finalement, a de plus en plus de perversions, si l'on peut dire, à échapper au système immunitaire. Quand vous avez eu, par exemple, Omicron en janvier, donc plutôt le BA1, eh ben vous êtes 7 fois moins, votre sérum neutralise 7 fois moins les variants actuels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on peut pas calculer, je dirais, bon, je suis tranquille, j'ai eu en janvier, j'ai aucun risque, je peux embrasser la personne qui est contagieuse, c'est la festa, etc. Non, parce que, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour l'immunité collective, parce qu'il y a une telle variabilité à l'intérieur même de ces virus d'Omicron que finalement, ça participe pas tellement à l'immunité collective, et d'où la demande d'efforts de prévention et de vaccination.
Et c'est le moment où vous montrez votre masque. Je voudrais comprendre une chose parce que j'avoue qu'on s'y perd. On ne sait plus à quel nombre de doses on est censé être. Le tout un chacun, un adulte bien portant, classique, est censé avoir reçu combien de fois la dose du vaccin?
La base, c'est 3 doses. La base, c'est 3 doses. Et après, effectivement, il y a le rappel, deuxième rappel pour les plus à risque. Ça, c'est à voir en fonction des personnes. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va jouer beaucoup.
On est tous censés avoir reçu 3 doses. Hein. J'avoue qu'on a un peu perdu le fil. Oui. On est tous censés avoir reçu 3 doses. Et seuls les plus fragiles, et notamment les plus âgés, sont censés avoir reçu la quatrième.
Mais c'est beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous disais, 8 millions de plus de... C'est surtout les plus de 60 ans. Et ça fait beaucoup de monde.
Un quart des personnes éligibles à cette deuxième dose de rappel ne l'ont toujours pas reçue.
Voilà, ça c'est un des constats. Pourquoi ? Mais parce qu'au moment où on a dit le 17 mai, on enlève les obligations, enfin l'exécutif a dit on enlève les obligations, les gens ont entendu finalement, c'est réglé, Omicron nous a réglé le problème, en fait rien n'est réglé. Donc il va falloir s'habituer à vivre avec ces vagues et surtout être réactif. C'est-à-dire que les Français n'attendent pas qu'il y ait des contraintes pour justement retourner à la vaccination. Il y a encore 200 centres de vaccination. Donc on peut se vacciner chez les pharmaciens. On peut se vacciner.
Quand vous dites on peut se vacciner, tout le monde peut se vacciner? C'est-à-dire que je reprends l'exemple de l'adulte bien portant qui n'était pas prioritaire pour cette quatrième dose. Aujourd'hui, en sortant de cette interview, en vous ayant écouté, ils peuvent aller chez le pharmacien et dire bonjour, je voudrais ma quatrième dose.
Il peut avoir une prescription de son médecin s'il n'est pas complètement dans les clous. Et effectivement, les gens peuvent demander d'eux-mêmes. Et ça
leur sera donné. Je veux dire, il n'y a pas des critères à remplir.
Non, il n'y a pas de critères à remplir.
Tout le monde peut avoir la quatrième dose. Ouais. À titre personnel, vous conseillez tous ceux qui nous écoutent et surtout, de faire la quatrième dose.
Il y a un autre truc qu'on entend beaucoup dans les consultes et puis sur les réseaux sociaux, c'est « Ah oui, mais je vais attendre qu'il y ait des vaccins de deuxième génération, ce qu'on appelle les vaccins bivalents qui vont justement protéger contre... » Mais n'attendez pas, parce que la septième vague, elle est maintenant.
La septième vague
Elle est là, je veux dire, on n'a pas tergiversé. Son importance, on va voir comment elle se comporte par rapport à l'hôpital. Mais bon, si je peux dire un mot sur l'hôpital, même si on va peut-être y revenir.
Julien, justement, deux mots. D'abord, un mot qui est encore lié sur le Covid, mais ensuite, évidemment, sur la situation, et y compris la réalité politique, qui a quand même un impact, évidemment, sur ce qui se passe. Juste quand même pour rassurer ceux qui nous écoutent, certes, ça circule beaucoup, là, on l'a bien compris. Il n'y a pas, pour l'heure, de situation où il y aurait cette vague qui se manifesterait par un afflux massif de malades à l'hôpital.
Non, ça monte à l'hôpital, mais ça monte tout doucement. Voilà, on a eu, en réanimation, à Tenon par exemple, on a eu un moment zéro. Contrairement à mon service, on a eu zéro hospitalisation. Et là, on est entre 2 et 4 hospitalisations.
Ça me frappe quand même.
Mais bon,
la dernière personne qu'on a passée en réa,
c'est une femme de 72 ans, zéro vaccin. Donc
c'est vraiment qui était encore très à risque et qui ne s'était pas protégé.
Très à risque.
Gilles Pialoux, vous l'avez dit dès le début, vous avez dit, au fond, on va devoir compter sur soi-même, c'est-à-dire on va devoir être dans une responsabilité personnelle, aussi parce que la contrainte ne viendra pas d'en haut. Et vous y pensez à la fois parce que tout simplement il y a une forme d'opinion publique lassée, fatiguée, à qui il serait plus difficile qu'avant de dire, on va remettre le masque obligatoire, mais aussi parce que tout simplement il n'y a plus de ministre de la Santé. Enfin, techniquement, il y a encore une ministre de la Santé qui est Brigitte Bourguignon, mais qui est démissionnaire, qui juste gère les affaires courantes.
Bon, là, franchement, je suis très inquiet. C'est-à-dire que autant, je vais vous faire c'est pas un jeu de mots, mais je veux dire, l'hôpital, la septième vague, en face, j'ai peur que l'hôpital, ce soit la septième compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans une telle situation, alors on peut rentrer dans les détails, mais je veux dire, C'est concret. Je veux dire, nous, on a 12 blocs opératoires attenants, on en a 8 qui fonctionnent, parce que les autres n'ont pas de personnel
vous
en face.
Vous avez 4 blocs qui sont fermés.
3 à 4 blocs qui sont des blocs qui font la chirurgie du cancer, qui font de la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, etc. C'est pas de la petite chirurgie, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que ça a un impact complet sur les patients. Ça veut dire que vous retardez les programmes opératoires de certains malades. Et c'est d'autant plus préoccupant que, comme vous venez de le dire, on est dans un no man's land de décisions politiques. Je vais prendre deux exemples concrets aussi. Cette semaine, c'était la journée du don d'organes. Et il y a eu la journée du don d'organes et il y a la journée de maladie de Charcot, qui, vous savez, est un sujet de combat pour moi. Invisibilisation de ces deux journées, on en a très peu parlé, il y a eu un papier très bien dans Le Monde sur le don d'organes.
Et nous, toute la journée, on en a parlé un soir.
Oui, on en a parlé, mais je veux dire, les chiffres, ils sont en face. C'est que vous avez 29%, on a perdu 29% de greffes pendant la crise du Covid, qui n'ont pas été rattrapées, ou qui sont en train d'être rattrapées. Et c'est compliqué de rattraper quand vous avez des blocs opératoires fermés du fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui
ne marche plus.
Qui ne marche plus.
Si je vous écoute,
et qui est une perte de chance pour les personnes. Pareil pour les maladies rares. On a un plan maladie rare, dont la maladie de Charcot, mais pas seulement la maladie de Charcot, qui s'arrête en 2022. Quelle décision politique va nous faire un plan? S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide aux familles. Donc, et dernier exemple, le VIH, on a perdu 650 000 tests pendant le Covid. Il y a 650 000 personnes qui ne se sont pas fait dépister. Où sont les campagnes qui expliquent,
par tout exemple, ça, c'est des décisions politiques. Et comme ces décisions politiques ne sont pas prises, elles auront aussi un impact.
Il y a la décision politique. Je prends une décision politique d'Olivier Véran qui était très bien. C'est de faire que chaque personne peut faire un test de dépistage du sida sans ordonnance en France. Ça a été testé à Paris et à Nice. Mais qui est au courant de ça? Qui est au courant de ça? Où sont les affiches qui permettent de dire aux gens à la fois remettez le masque et à la fois profitez-en de vous faire dépister de tous les virus, hépatites, etc. Donc on a vraiment une inquiétude et franchement, en vous écoutant et en discutant avec vos collègues journalistes, cette période de no man's land politique est vraiment catastrophique pour l'hôpital.
En fait, l'hôpital ne peut pas attendre. L'hôpital ne peut pas attendre qu'il y ait des coalitions, l'hôpital ne peut pas attendre qu'il y ait une nouvelle ministre ou un nouveau ministre de la Santé.
Mais en tout cas, il y a des malades qui ne peuvent pas attendre. Je parlais de la maladie de Charcot tout à l'heure. C'est la maladie de Charcot, la moyenne de survie, c'est un quinquennat. Les gens vivent 5 ans en moyenne. Vous comprenez bien que les mois et les années sont comptés pour ces patients-là. Pareil pour les greffés de moelle. Il y a eu une lettre dans le Canard enchaîné de la Société française de greffe de moelle qui s'inquiète aussi d'avoir un retard, du recul. Il y a les associations de greffés rénaux, les Rénalou, qui se sont aussi inquiétés du retard à la greffe du fait de l'absence de personnel. Et c'est inaudible pour les patients.
Absence de personnel,
c'est inaudible.
Et absence de décision politique. Il y a aussi cette bombe à retardement. 3 millions de rendez-vous qui ont été annulés à l'hôpital en 2020 et en 2021 à cause du Covid. C'est le chiffre qui a été donné hier par la Fédération hospitalière de France. Ça veut dire que concrètement, tous ces millions de rendez-vous qui n'ont pas été honorés, qui ont été repoussés, ils arrivent maintenant, sauf que vous ne pourrez pas les honorer. Vous ne pourrez pas tous les honorer.
D'abord, on peut pas les honorer. Enfin, on a du mal à les honorer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous savez qu'il faut du personnel. Nous, on a fait ce travail-là, par exemple, pour les perdus de vue, des patients infectés par le virus du sida, perdus de vue pendant cette période Covid. Mais c'est un travail titanesque. Là, il faut mettre 2 personnes à plein temps, parce qu'il faut vérifier les adresses, appeler les gens, les recontacter, tout ça. C'est un travail titanesque. Quand vous êtes en pression, à la fois du personnel d'accueil, à la fois du personnel infirmier, parce qu'il faudra en parler un jour des infirmières en France, et un jour il va falloir prendre des décisions sur les infirmières.
Mais vous seriez aux manettes, vous prendriez quoi comme décision?
Déjà, il faut revoir tout le système de formation des infirmières. Il y a des solutions, elles circulent. Il y a à peu près, sur Parcoursup, il y a un vrai problème sur Parcoursup.
Il y a plein de problèmes sur Parcoursup, mais en effet, ils ont des conséquences, comme vous le dites, tangibles.
Il y a 600 000 demandes, par exemple, d'écoles d'infirmières. Il y en a 39 000 places dans les écoles d'infirmières. Il y en a 10% qui ne terminent même pas l'école d'infirmière. Et plus encore, il y en a 20 à 30% qui vont quitter le boulot d'infirmière dans les 5 ans. Donc il y a un vrai problème.
Par découragement, parce que la rémunération
n'est pas
colorée.
Par attraction du privé, par non-valorisation du travail de nuit, qui est quand même une urgence. Est-ce que c'est travailler de nuit? C'est quand même très fatigant.
Emmanuel Macron avait mandaté François Braun il y a un mois pour rendre un flash rapport sur l'hôpital, une mission flash. Ce rapport doit être rendu mardi. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que vous dites ça, c'est quand même le début d'un truc?
Ce que j'espère, c'est que le flash rapport va avoir une flash décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas tellement le flash rapport qui est important. Mmh. Monsieur Braun connaît très bien le système des urgences. Mmh. Mais c'est d'avoir des flash décisions derrière. Et vous avez bien compris que dans ce chaos-là, parce que, ce chaos, enfin, c'est l'hôpital qui est KO aussi debout. Hein, on joue un peu sur les mots.
En fait, mais... je vous sens complètement. Je vous ai souvent interrogé ici. Vous aviez une inquiétude grave sur la sévérité du virus, les conséquences. Mais là, vous avez une inquiétude de fond.
Ah oui,
et je vous sens comme ne sachant plus où trouver prise.
Mais c'est ça l'histoire. Je vous ai dit, on s'est réunis en les chefs de service de tenons. Finalement, c'était un groupe baline. Chacun disait ce qui n'allait pas. Mais en fait, mettre des solutions en face, on les a pas. Je prends un exemple concret. Moi, j'aurai à la fin du mois de juillet 36% de mes infirmières qui manquent, mais j'ai absolument pas la main sur le recrutement. C'est pas moi qui vais les chercher. Vous savez, ce qu'on a appelé la gouvernance, on l'a subi parce que il y a une gouvernance complètement bicéphale, sauf pendant le Covid, où là, il y avait une gouvernance médico-administrative qui fonctionnait très bien. Il y avait des cellules de crise. Ben, reproduisons ça, et je vous parle même pas des urgences.
Et voilà peut-être la solution. Gilles Pialou, en tout cas, merci pour ce point très complet. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Thonon, et vice-président aussi, on en a parlé ce matin, de la Société française de lutte contre le sida. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.